Ce soir, j'aimerais que l'on réfléchisse un petit peu sur le fait que les sacrificateurs avaient certaines caractéristiques. Ce sera notre introduction. La première, je disais, on les trouve ces caractéristiques essentiellement dans le livre du Lévitique au chapitre 21 et 22. J'en ai pris certaines pêle-mêle qui me paraissaient plus intéressantes, plus édifiantes pour ce soir. Mais vous pourrez bien sûr les lire chez vous. Tout d'abord, le sacrificateur ne devait avoir aucune malformation. Aucune malformation physique. Et je dirais que nous qui sommes sacrificateurs, nous ne devons avoir aucune malformation du cœur. Et je dirais que tout en nous doit être profondément droit. Il ne pouvait pas entrer dans le temple s'il était mal formé. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu quand notre cœur n'est pas droit. Je ne peux pas me dire sacrificateur de Dieu quand mon cœur n'est pas droit. Au hasard, j'ai pris quelques textes, au hasard pas tout à fait, quelques textes qui vont dans ce sens-là. Le psaume 18 et au verset 20 dira: L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Il y a comme une notion de proportionnalité. Même si on sait que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, il n'en reste pas moins que nous rendra selon notre droiture. Psaume 25, verset 21, que l'innocence et la droiture me protègent, virgule, quand je mets mon espérance en toi. Je ne peux compter sur la protection de Dieu et ainsi sur sa présence que lorsque dans mon cœur les choses sont droites. Deuxième chose, il était nécessaire que le sacrificateur n'ait pas d'habitude païenne. Et Jésus lui-même le dira, on ne peut pas servir deux dieux en même temps. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon étant le symbole de l'argent. Troisième caractéristique, il ne devait pas toucher à des choses impures. Ce que l'on touche nous contamine. Mais vous savez qu'il y a un instrument avec lequel on peut toucher et qui est extrêmement courant. Quelqu'un a dit un jour que la convoitise, c'était les mains du cœur. Et avec mon cœur, je peux toucher ce qui est impur. Jésus le dira d'une manière très claire, celui qui convoite la femme d'un autre a déjà commis l'adultère avec elle. Tout simplement parce que la pensée est tombée de la tête au cœur. Quatrième axe, et que nous développerons de manière particulière, qui sera le sujet de notre réflexion, c'est que les sacrificateurs avaient une tenue particulière et qu'il devait revêtir, et pour ce faire, il y avait trois phases distinctes que nous allons voir ce soir. Il avait une tenue particulière qu'il devait revêtir. Ce n'était pas Jésus qui le revêtait, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui le revêtait, ce n'était pas Dieu qui envoyait les anges pour le revêtir, mais c'était lui qui, de manière consciente, se revêtait de cette tenue. La première chose qu'il faisait pour revêtir la tenue, c'est quoi votre tenue? Quelle était la première chose qu'il faisait? Il enlevait ses vieux vêtements. Il se déshabillait. Je veux être un sacrificateur pour toi, Seigneur. Première chose qu'il m'appartient de faire, c'est de me dépouiller. Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 22, version parole vivante. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Ce dépouillement est lié au fait d'avoir entendu l'Évangile, au fait d'avoir pris conscience du fait que nous étions pécheurs, au fait lié au fait que tout d'un coup l'Évangile a retenti dans notre cœur. La foi nous appelle à renoncer aux fruits qui nous faisaient rougir auparavant, c'est ce qu'écrira Paul aux Romains. Et Jésus utilisera dans Luc 9, 23 un passage qui est très connu, mais que je vais vous lire dans trois versions différentes. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce qui corrobore le texte de Paul. Pour commencer à se revêtir, à prendre le statut de sacrificateur, pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Première version, c'est la version parole vivante, traduit de la version parole de vie, pardon, qui traduit la manière suivante. Ensuite, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même. » C'est la plus douce. Il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. Bref, se dépouiller, ce n'est plus penser à ce que je suis, ce que je veux, mais c'est penser à priorité à ce que Jésus veut. Les intérêts du maître passent avant les miens. Deuxième version, parole vivante, traduit, puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. On ne s'appartient plus. C'est encore plus fort. On appartient au maître. S'il décide de nous habiller avec du bleu turquoise, avec des pois roses, nous n'avons pas le droit de lui dire « c'est pas beau ». Ou on a le droit de lui dire, mais on n'a pas le droit d'enlever. Je schématise. Je renonce aux droits que j'ai sur moi-même. C'est lourd de sens. Le troisième, la version Shouraki, qui est un peu particulière, mais qui rejoint la version Tob, traduit de la manière suivante. Il dit à tous, « Si quelqu'un veut aller derrière moi, qu'il se nie lui-même, porte chaque jour sa croix et me suivre. » Et me suivre. Qu'il se nie lui-même. Sous-entendu, je n'existe plus. Je n'existe plus. En tant qu'individu, mais je n'existe qu'en tant que disciple. C'est ça les nuances. Je n'existe plus en tant que mari, mais je n'existe qu'en tant que disciple qui aime une autre disciple, qui elle-même n'existe plus qu'en tant que femme. Ce qui n'est pas une négation de notre identité en tant que telle, mais ce qui est le fait que Jésus passe en premier, et que je choisis de me dépouiller pour être son disciple. Je crois, mes frères et sœurs, qu'il y a deux enseignements essentiels que j'aimerais laisser sur votre cœur. Le premier, c'est que, à mon sens, il est impossible de supporter les épreuves de cette vie. Et parfois, les conflits que peut générer la foi, si ce dépouillement n'a pas eu lieu. Si en moi-même, je n'ai pas accepté que finalement, mes droits, ils étaient avant tout dans le ciel. Et que ce que je suis, c'est avant tout d'être un disciple du Seigneur. La deuxième chose, c'est que lorsque on refuse ce dépouillement, et ça nous arrive, parce que ce dépouillement, on l'imagine, fait tout d'un coup. Mais c'est pas vrai. C'est un dépouillement qui est totalement progressif. Hein, quand Paul explique qu'il faut crucifier la chair, on sait que c'est une mort lente, la crucifixion. Je crois que pour nous, notre dépouillement, c'est le dépouillement d'une vie. C'est le dépouillement d'une vie. Mais quand, d'un côté, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui tire en disant « Bruno, dépouille-toi » et que Bruno, lui, hein, il me dit « Non, je ne veux pas me dépouiller. » Il y a un tiraillement dans notre cœur, un tiraillement dans notre être intérieur qui fait qu'on est mal à l'aise dans notre foi, qui fait qu'on est triste dans notre foi, qui fait que finalement, on sent une douleur, un déchirement en nous et on perd notre énergie, toute notre énergie spirituelle et de se battre contre le Saint-Esprit qui veut nous dépouiller. Notre communion avec Dieu en est faussée, et nous sommes dans cette relation où finalement on sent ce tiraillement fort en nous. Mon frère, ma sœur, si tu sens ce tiraillement dans ton cœur, ou si tu sens que véritablement, eh bien, tu es en train de t'épuiser, c'est que tu es en train de lutter contre le Seigneur Jésus, contre le Saint-Esprit, qui veut te dire, débarrasse-toi de cette pratique, débarrasse-toi de ton ancienne vie, débarrasse-toi de cette chose que tu as emmenée après le passage de l'autre côté, débarrasse-toi de cette vieille nature qui te pourrit la vie, débarrasse-toi de cette mentalité qui t'enferme, et je voudrais élargir l'espace de ta tente. Débarrasse-toi de tout ça. Débarrasse-toi. Tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de mettre ta foi en danger. Tout simplement parce que tu refuses de céder. Et il y a ce tiraillement. Je sens comme une urgence dans mon cœur. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Le dépouillement, ce n'est pas forcément le dépouillement de péché. Mais ça peut être le dépouillement de certaines pratiques, conceptions, certaines mentalités, qui aux yeux des hommes n'ont rien de répréhensible, mais qui aux yeux de Dieu sont des freins. Tu es tiraillé. Tu es tiraillé. Laisse-toi. Laisse-toi dépouiller. Dépouillement, ce n'est pas l'addition de quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque part la mort d'une ancienne vie, la naissance de quelque chose de neuf en nous. Vous savez, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On a une parabole. Jésus nous a laissé une parabole, la parabole du vêtement et la parabole de l'outre. On ne peut pas. Et toute l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de changer, de renouveler tout ce que nous sommes. Et je dirais que notre structure même doit changer, doit évoluer. Conclusion de cette première partie, j'ai marqué sur mes notes, ce n'est pas la sacrificature qui dépouillait, mais c'est le dépouillement qui précédait la sacrificature. Ce n'est pas le service qui nous sanctifiera, mais nous serons aptes à être des sacrificateurs à partir du moment où nous serons dépouillés. Je crois qu'on peut même aller plus loin. Peut-être que je vais aller trop loin, mais vous comprendrez peut-être le fond de ma pensée. On peut prier, on peut se tenir dans la présence de Dieu, exercer notre sacrifice, notre rôle de sacrificateur, en demandant au Seigneur, dépouille-moi. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que les choses se passent. Le dépouillement, il doit avoir lieu avant de revêtir la vie. Avant. Nous en reviendrons, nous développerons ça peut-être tout à l'heure. Deuxièmement, sacrificateur, ensuite ils étaient lavés. Exode chapitre 29 verset 4, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Ils ne pouvaient pas revêtir les vêtements sans être lavés auparavant. Automatiquement, vous pensez à un texte. Je suis sûr. Épître de Paul à Tite, chapitre 3 au verset 5, vous le connaissez par cœur. Non ? C'est pas vrai. Et il nous a sauvés, non à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, et, le « et » est important, par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Deux actions. De même manière, les sacrificateurs que nous sommes ont été lavés, et ça vous connaissez la réponse, je vous l'ai répété assez souvent. Il y a deux types de sanctification dans ce passage. Quelles sont-elles ? Ce qui est extraordinaire, c'est que je pourrais prêcher tous les jeudis soirs sur la même chose. La sanctification de position. Je suis sauvé par nature. Aux yeux de Dieu, je suis saint, je suis pur, je suis né de nouveau. Et la sanctification de marche, celle qui est effective sur la terre et qui se fait par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il nous a sauvés premièrement par le bain de la nouvelle naissance et deuxièmement, par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. après avoir accepté d'être dépouillé, et on doit être lavé. C'est l'action du Saint-Esprit en nous, qui ne peut se produire qu'à partir du moment où on a accepté, où on a voulu, on lui donne l'autorisation de le faire. Premier point que j'ai souligné, et là j'aimerais, je pense que c'est quelque chose d'important. Ils le faisaient à chaque fois qu'ils enfilaient les vêtements. Chaque fois qu'ils accomplissaient leur service, ils étaient lavés. Trois exemples. Trois choses qui me paraissent importantes. Je pense qu'il est nécessaire que nous fassions, je l'ai mis ainsi, mais c'est plus un petit peu d'humour, un examen de conscience chaque fois que nous nous approchons de Dieu afin de vérifier que nous élevons réellement vers lui des mains pures. On le fait, ça? Ou alors, entre le bol de céréales et le chocolat, merci Seigneur, amen. Non, je pense que, vous savez, on y viendra, mais apporter un feu étranger, je pense que c'est nécessaire avant d'en avoir notre temps de prière, avant de venir au culte ou à la réunion de prière, de prendre le temps et de dire, je suis bien lavé au fait. Quelles sont les mains que je vais élever vers Jésus? Quelles sont les mains que je vais élever vers mon Dieu? Je ne parle pas de perfection. Mais je parle de cœur pur. Deuxièmement, chaque fois que je sers Jésus, j'examine mon cœur et mes mobiles. Parce que les musiciens montent sur l'estrade, je crois qu'ils examinent leur cœur et leurs mobiles. Pourquoi le font-ils? Chaque fois qu'on vient faire le ménage, on examine nos cœurs. Pourquoi le faisons-nous? Chaque fois que je prêche, j'examine mon cœur. Pourquoi est-ce que je le fais? Troisième exemple qui est profondément biblique, quand je prends la Sainte-Cène, examinez-vous. Non pas pour vous condamner, mais pour bénéficier de la grâce si jamais vous avez péché. Examinez-vous. Est-ce que j'ai laissé le Saint-Esprit faire son travail en moi? Ou alors est-ce que j'ai mis les obstacles? Est-ce que j'ai mis les freins? Chaque fois qu'ils enfilent le vêtement, ils étaient lavés. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas simplement le renoncement à des actes négatifs. On l'a vu, c'est également la pratique d'actes positifs. Mais c'est également accepter d'être transformé à l'image de Jésus dans notre structure intérieure. Les actes ne sont que le reflet de ce que nous sommes. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes plongés dans l'œuvre de Jésus qui nous lave de nos mauvaises actions, il lave nos consciences, il lave nos cœurs. Nous sommes des sacrificateurs. Mais simplement, n'oublions jamais que nous devons garder dans notre cœur la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. Je ne peux pas le faire simplement de tout mon cœur. Mais je dois le faire. Je dois m'approcher du Seigneur. En ayant dans mon cœur cette certitude, cette assurance. C'est bien que j'ai vraiment laissé le Saint-Esprit faire son œuvre en moi. On a l'exemple de l'apôtre Pierre, celui qui le deviendra dans Jean 13, verset 8. Alors que Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples, Pierre va lui dire, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Ah, je l'aime bien, Pierre. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Non pas qu'il pensait ne pas en avoir besoin, mais il pensait que Jésus n'était pas digne de le faire. Du moins que Jésus n'avait pas à le faire. C'était pas son rôle, c'était pas sa fonction. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » J'aime bien parce qu'il change d'avis aussi. Il reconnaît ses erreurs. Et Jésus lui dit, « C'est ça qui va nous intéresser. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Nous sommes lavés. Sanctification de position. Mais nous avons besoin de laver les pieds de notre cœur. Sanctification. Nous avons besoin de laver les pieds de notre cœur. Les actes ambigus. Les pensées mauvaises. Des semences tendancieuses, de la colère, de la haine. On a besoin de laver nos pieds. On a besoin de laver nos cœurs. Ne nous couchons pas le soir sans avoir lavé nos cœurs. Parce que sinon, ils deviennent tout noirs. Et puis, un culte ne suffit pas pour les décrasser. C'est peut-être un peu trivial, mais je pense que c'est très vrai. Quand la crasse s'est accumulée quelque part, un gant de toilette ne suffit pas. Il faut la brosse à récurer. Mais combien de cœurs ont besoin d'un brosse à récurer? Parce que tout simplement, ils ont oublié de nettoyer leurs pieds régulièrement. Puis vous savez, on s'habitue vite à la crasse. On s'habitue vite à un petit peu de désordre. On a oublié de laver nos pieds. Que le Seigneur nous aide. Troisième étape, il était vêtu. Je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on développera la tenue des sacrificateurs la prochaine fois, en sachant que la tenue du sacrificateur était différente de la tenue du souverain sacrificateur, qui est et qui demeure Jésus. Alors, si vous avez envie de devancer, je vous proposerai de lire dans le livre de l'Exode, chapitre 28, et versets 40 à 44. Et vous aurez ainsi les tenues, et vous aurez matière à réfléchir et à me devancer. Que le Seigneur soit béni en conclusion. Oui, nous sommes des sacrificateurs. Pour Dieu, le Père. Oui. Simplement, pour être des véritables sacrificateurs, et je crois que nous le sommes, nous ne devons pas oublier la nécessité de se dépouiller de ce vieux vêtement et la nécessité de laver nos pieds. Non pas de remettre en cause le lavage de tout le reste, hein, mais de laver nos pieds, de laver les pieds de notre cœur de manière régulière. C'était juste un petit rappel, mais je pense que c'était tout de même important. Que le Seigneur nous y aide, que le Seigneur nous fasse grâce.